On commence, tout le monde est là. J'espère que nos visiteurs du soir sont bien assis, qu'ils ont donné le bain aux enfants, qu'ils ont eu le temps de dîner et qu'il n'y a pas d'émission trop attirante à la télévision, pas de match de rugby ou des choses comme ça qui seraient de nature à faire une concurrence déloyale. Voilà. Donc, je reprends ça. J'essaie de ne pas perdre de temps en bavardage inutile, me réjouissant quand même de reprendre ces soirées. Et donc le sujet que j'ai préparé ce soir, c'est le sujet de l'incompréhensibilité de Dieu. Donc ça devrait être assez rapide, parce que si on ne comprend pas, on ne comprend pas, donc on rentre à la maison. Parce qu'en fait, c'est un lien qui ne vous échappera certainement pas, un lien avec ce que nous avons fait précédemment, c'est-à-dire tout ce que j'avais présenté sur dogme et kérigme. Schématiquement, j'avais exprimé qu'au fond, le dogme, c'est ce qui est secret, ce qui est vécu à l'intérieur de l'Église, de façon orale éventuellement. Je vous avais donné des très beaux textes de Saint Basile, je crois, dans le traité du Saint-Esprit. Et puis, l'autre terme, le terme de kérigme ou kérigma, c'est ce qui est proclamé de façon officielle par l'Église, éventuellement à l'extérieur de ses propres murs. Et donc, ce sont toujours des couples, en quelque sorte, dogme et kérigme. Voilà, donc on a eu cette couple, cette petite antinomie, en quelque sorte. Et là, nous approchons d'une autre antinomie, d'un autre couple, qui est le couple, en fait, de inconnaissance et connaissance. C'est-à-dire que la question de la connaissance, et donc la question de la théologie, dans la tradition patristique que nous essayons de suivre, la question de la théologie se pose sous forme de ce couple-là, de cette polarité, en quelque sorte. Et donc, pour arriver un peu, les cours suivants, arriver à la question, justement, de l'apophatisme théologique et du cataphatisme théologique, pour employer des gros mots, donc, il m'a paru nécessaire, en fait, d'aborder vraiment la question de l'incompréhensibilité en tout premier, parce qu'il me semble avoir compris que c'est vraiment la base, en fait, de l'expérience de Dieu qui peut se formuler dans la tradition de l'Église. Alors, je voudrais rappeler aussi, en commençant, que ce que nous faisons, comme ça, une fois par mois, pendant une heure et demie, c'est... Ça n'a pas la prétention d'être un cours de caractère universitaire ou autre. Vous voyez, moi j'essaye de dire les choses simplement, c'est ce que j'ai essayé de faire les fois précédentes, donner des éléments de base pour accessible à tous, et de clarifier un petit peu les idées pour tout le monde, et puis pour réviser éventuellement un petit peu les notions que vous avez déjà certainement. Donc ce soir, c'est ça, c'est théologie et incompréhensibilité de Dieu. Et je rappelle aussi que je suis toujours accessible par Internet et par téléphone mobile, donc c'est même pendant le cours. Je peux prendre les messages écrits, en tout cas. Et avant de commencer, d'entrer dans l'introduction même du sujet, je veux dire que sur cette question de l'incompréhensibilité divine, et donc de l'inconnaissance de Dieu, il y a des livres pas trop compliqués, disons, que je veux bien vous signaler. D'abord, il y a un livre que je trouve très utile, c'est le livre de Christos Yannaras qui s'appelle « La foi vivante de l'Église, introduction à la théologie orthodoxe », publié chez Cerf à Paris en 1989, et vous trouverez page 33, à partir de la page 33 en tout cas, une assez bonne présentation de ces problématiques. Ensuite, autre ouvrage accessible à tout le monde, je crois, enfin, encore qu'il soit quand même assez bien documenté, c'est le livre de Paul Evdokimov qui s'appelle « La connaissance de Dieu selon la tradition orientale ». Alors ça, c'est une édition ancienne aussi, d'Esclée de Brouwer, Paris 1988, et ce sont les pages 15 et 25 qui sont les plus adaptées au sujet que je présente ce soir. Là, maintenant, vous connaissez tous la théologie mystique de l'Église d'Orient de Vladimir Lossky, page 5, c'est tout à fait au début de ce livre, il explique un petit peu ça, mais chez l'art de Vladimir Lossky, c'est toujours quand même assez difficile, je trouve, c'est un écrivain de très 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 haut niveau, il y a une grande concentration dans les mots, dans les termes, je ne sais pas si c'est Voilà, on ne peut pas tout lire, je vous conseillerais plutôt le livre de Yann Arras et le livre de Paulette Dokimov. Et puis je vous renvoie encore à un livre que j'ai déjà cité, qui est le livre de l'Archimandrille Placide, Certitude de l'invisible. Je vous ai déjà donné ça, parce que lui, il explique vraiment très bien, page 31-39, toujours avec sa clarté française. Mon père Placide explique vraiment bien cette problématique de connaissance-inconnaissance. Bon, et puis, bon, alors après ça, bien sûr, si vous voulez lire les noms divins de Denis l'Aréopagite, je ne peux pas vous en empêcher, mais je pense que c'est quand même... Faut être simple et savoir que on doit entrer dans cette démarche théologique orthodoxe avec patience, lentement, on ne comprend pas tout de suite, on croit avoir compris, et puis finalement on était passé à côté de l'essentiel. Enfin, c'est ce qui m'arrive en tout cas, beaucoup d'idées que je croyais avoir comprises, et je m'aperçois avec le temps que soit je m'étais trompé, soit je n'avais pas vu les aspects les plus intéressants d'une question. Et bien, ceux qui ont vraiment peu de temps peuvent lire Denis l'Aréopagite et le nom de Dieu raconté par Jean-Paul Mongin dans la collection Les Petits Platons, Paris 2012. Donc ça, c'est une présentation de caractère ludique de la pensée de Denis l'Aréopagite et qui est destinée à des enfants, à des étudiants, mais il n'y a pas de honte, on peut être modeste et dire, au fond, je n'ai pas le temps de lire les noms divins de Denis l'Aréopagite, donc je vais lire ce petit fascicule. Et alors moi, personnellement, ce que j'utilise ce soir principalement, ce sont deux ouvrages des Saints-Pères, que vous lirez si vous voulez, mais c'est pareil, c'est très compliqué, pour trouver vraiment ce qui est intéressant dedans, on perd un peu de temps, et moi, au fond, je vous facilite le travail en dégageant les passages les plus caractéristiques. Donc ces deux ouvrages que j'ai utilisés pour ce soir, c'est d'une part le traité sur l'incompréhensibilité de Dieu de saint Jean Chrysostome et d'autre part le livre de saint Basile le Grand contre un homme qui est en fait antérieur d'ailleurs à celui que j'ai cité puisque saint Jean Chrysostome semble-t-il reprend beaucoup des éléments qui sont dans le livre de saint Basile. Alors je vais expliquer un petit peu tout ce qui est dit par ces saints pères. Je crois qu'en fait, c'est le fond du problème, le fond de notre réflexion, de la réflexion théologique en elle-même, la définition de la théologie, c'est la question « Que pouvons-nous dire de Dieu ?»« Que pouvons-nous dire de Dieu ?»« Jusqu'où pouvons-nous aller dans ce que nous disons de Dieu ?»« Qu'est-ce que nous avons besoin de dire de Dieu ?» J'avais expliqué dans les tout premiers cours qu'en fait, la théologie, c'est pas tellement parler de Dieu que plutôt parler à Dieu, donc la théologie trouve sa meilleure expression, évidemment, dans la vie liturgique et dans la prière liturgique. Ça, j'en suis vraiment persuadé. Mais enfin, de temps en temps, bon, on est un peu obligé de parler de Dieu, mais et jusqu'où peut-on aller? On s'aperçoit qu'on peut aller à la fois très loin, et que même si on va très loin dans ce qu'on dit de Dieu, en réalité, il y a quelque chose qui nous échappe complètement. C'est ça, d'ailleurs, c'est bien ça le sujet de l'incompréhensibilité de Dieu. Donc, au fond, la question, c'est ça, c'est que valent les mots du langage humain, en général, d'ailleurs, et particulièrement en relation avec Dieu. Et ça revient aussi à la question du dogme, d'ailleurs. Hein, l'autre jour, quand j'avais expliqué que le dogme c'est la vérité vécue, mais c'est la vérité vécue d'une manière existentielle, souvent, dans la communauté chrétienne, dans la communauté de l'Église, sans définir trop, souvent d'une manière indirecte, souvent d'une manière symbolique, à travers la liturgie. Donc, au fond, nous, les orthodoxes, je pense que nous faisons extrêmement attention à ce que nous disons. C'est-à-dire, d'une part, nous faisons attention de ne pas dire de paroles qui soient fausses, qui soient inexactes, de ne pas dire d'erreurs par rapport à ce que Dieu a révélé de lui-même, et nous faisons aussi attention de ne pas donner l'impression que nous allons épuiser le sujet, que nous avons tout compris, tout expliqué. Alors je voudrais dire aussi, pour toujours en train de commencer, je continue à commencer, ça ne vous ennuie pas, que j'aime beaucoup placer toujours ce que nous disons dans le contexte du temps liturgique. On avait fait la dernière fois, c'était le temps de la théophanie, et là nous sommes dans le temps de la sainte rencontre, présentation du Christ au temple. Nous sommes d'ailleurs dans l'octave de cette fête, puisque la clôture de la fête c'est samedi le 9 février. Or, dans cette fête, on sent justement toute la question théologique hein, qui est celle de l'Église orthodoxe, c'est-à-dire on est dans un événement extraordinaire, une action divine, des actes humains également, un événement historique qui marque l'histoire, non seulement du peuple d'Israël, mais de l'humanité entière. Et en même temps, cet événement extraordinaire, il est inexplicable, il est inexprimable, il est incompréhensible, il est indicible, il est absolument au-delà des mots qu'on pourrait employer. Alors, donc finalement, nous sommes dans ce paradoxe, c'est qu'à la fois on sent que c'est très très important et on a envie de le chanter, on essaie de le chanter, de le louer le mieux possible, et en même temps on se rend compte qu'on va pas arriver, nous n'allons pas arriver à épuiser la profondeur de ce mystère. C'est pour ça que dans le texte liturgique, dans le canon de la fête, le canon des matines de la fête de la présentation du Christ au Temple, la glorieuse présentation du Christ au Temple, nous avons un paragraphe qui est l'icos de la fête, après la sixième ode, et qui dit ceci: accourons, accourons. Il faudrait expliquer tous les mots, commenter tous les mots. Accourons vers la Mère de Dieu pour voir son Fils présenté à Simeon. Du haut du ciel, les anges, le voyant, ont manifesté leur surprise en disant: merveille, ce que nous voyons à présent, ineffable, incompréhensible, sortant de l'ordre commun. Celui qui a créé jadis Adam se laisse porter comme un enfant. Celui que nul espace ne peut contenir trouve place dans les bras du vieillard. Celui qui est dans le sein du Père, sans limite pour sa divinité, accepte d'être limité par la chair, lui le seul ami des hommes. Fin de citation. Alors ça, c'est un texte comme ça, qui est un texte liturgique, et qui est lu à l'église pendant le lit des matines. Alors, vous vous rendez compte, c'est un texte qui a une densité théologique absolument extraordinaire, et qui, par rapport à notre sujet, c'est-à-dire la question de l'incompréhensibilité de Dieu et du mystère de Dieu, est bien très intéressant, puisque il emploie, on y trouve justement les termes que je vais reprendre avec d'autres, des termes qui sont tout à fait importants. D'abord, je dirais que le « accourons vers la Mère de Dieu » est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il doit y avoir, dans la connaissance théologique, il doit y avoir un élan, il doit y avoir une impulsion, il doit y avoir un enthousiasme, il doit y avoir une action du Saint-Esprit qui fait que l'être humain s'élance vers le mystère. Ça, je pense, c'est vraiment très important. Ensuite, un autre mot qui se présente ici, qui est très important, c'est le mot « surprise », que les anges essaient la surprise du monde angélique. C'est-à-dire que le monde angélique lui-même, est perplexe devant le mystère. C'est-à-dire qu'il n'a pas un accès direct à ce qui se passe, il peut s'émerveiller, et il dit son émerveillement avec des mots qui sont très importants. Le mot « merveille », donc il y a surprise dans le texte, « merveille », donc l'émerveillement, et puis ces mots que j'ai lus rapidement déjà, « ineffable », ineffable, c'est ce qui ne peut être exprimé, incompréhensible, parce qu'on peut comprendre, donc, et sortant de l'ordre commun. Et après ça, il développe la théologie même de ce qui se passe, disons, donc celui qui est sans limite pour sa divinité, par exemple, accepte d'être limité par la chair, lui le seul ami des hommes. Donc voilà un texte qui, pour moi, est vraiment un exemple typique de ce qu'on peut entendre par théologie patristique, théologie orthodoxe et théologie apophatique aussi, puisque on s'approche du mystère, on chante le mystère, mais on ne le définit pas, on le glorifie, mais tout en le glorifiant, on dit qu'il est invisible, qu'il est inexprimable, enfin, on est tout à fait dans le style théologique qui est le style patristique par excellence, quand même. Donc, ça c'est très important, c'est le premier élément que je voulais donner, parce que ça pose bien, je pense, le problème. Et en même temps, ce problème, si je peux dire, c'est un problème, enfin, cette réalité, disons, de la méthode, la sensibilité théologique qui est celle des pères, et qui est donc la nôtre aussi, elle est confrontée à notre époque, à toute époque, et justement à l'époque des anciens pères, elle est confrontée à l'esprit du monde. C'est pour ça que le cours au départ s'appelle quand même comme ça, c'est quand même la conception patristique de la théologie et sa confrontation au monde. Dans chaque cours, il y a eu un petit peu ça. Et qu'est-ce que le monde fait, lui? Le monde, lui, il est à la recherche de certitudes objectives, ce qu'on appelle les certitudes scientifiques. Il est à la recherche de vérités qu'on peut démontrer, qu'on peut fonder par la logique humaine, et donc d'une au fond de vérités qui dépendraient, ou qu'on croit faire dépendre, de la logique humaine et de l'intelligence humaine. Ça, c'est ce qu'on appelle le rationalisme. Mais le rationalisme n'est pas seulement la caractéristique de la culture occidentale depuis l'époque du Moyen-Âge, mais c'est aussi une tentation, si je peux dire, qui s'est manifestée dans d'autres contextes, y compris dans le contexte byzantin, y compris à Constantinople, y compris à Antioche, où Saint Jean Chrysostome a prêché ses homélies sur l'incompréhensibilité de Dieu. Au fond, je pense que la méthode théologique et celle des pères, elle se heurte, elle rencontre, disons, tout le temps, une démarche de connaissance qui est différente, et qui est inverse, et qui est une démarche qui prétend vraiment démontrer la vérité et qui prétend nier ce qui n'est pas démontré. Je veux dire que je suis sensible, par exemple, à ce qu'on voit chez les marchands de journaux. Vous savez, il y a des revues de vulgarisation scientifique dont vous connaissez les noms, je ne sais pas si je dois les citer ici, mais enfin, donc qui sont à la portée de tout le monde, science et ceci, science et cela, et qui paraissent chaque semaine, sont des hebdomadaires. Souvent des enquêtes très intéressantes, d'ailleurs, dans ces revues. C'est intéressant, disons, de lire ces revues de vulgarisation scientifique. Mais je remarque que la semaine dernière, une de ces revues, dont je ne veux pas faire la publicité, une de ces revues titrait en grand « Dieu n'existe pas ». Bon, et puis cette semaine, la même revue titre en grand sur la couverture « Tout s'explique ». Oui. Alors ça, c'est un peu la démarche, si vous voulez, dans laquelle nous trouvons, et qui a une prétention scientifique, mais qui n'est pas, à mon avis, véritablement scientifique. Je crois que ça se rapporte plutôt à des formes de scientisme que d'une méthode véritablement scientifique. Par exemple, affirmer que Dieu n'existe pas, ça n'a pas de valeur scientifique. Parce que pour prononcer une affirmation de ce type-là, il faudrait avoir réuni scientifiquement toutes les preuves, toutes les argumentations nécessaires de façon à établir un tel fait de non-existence. Donc c'est plutôt un propos, de nature à attirer les lecteurs, ce que je comprends très bien, et qui, au fond, correspond à des espèces d'opinions communes répandues. Mais nous sommes quand même confrontés à ce type de pensée. Et l'autre expression, tout s'explique, il est évident que ça va attirer aussi le lecteur, et qu'il est évident que c'est faux également, parce qu'un vrai, véritable esprit scientifique ne va jamais dire une chose pareille. Un véritable esprit scientifique se rend compte que la réalité du monde, la réalité cosmique, elle est approchée, on y cherche toutes les méthodes possibles, on renouvelle les mathématiques, la physique, tout ce qu'on peut pour essayer de rendre compte du réel, mais que le réel finalement échappe. Donc je pense qu'un vrai scientifique ne dirait pas tout s'explique, il dirait nous essayons de tout expliquer, mais modestement, nous n'arrivons pas encore à tout expliquer. Donc vous voyez, je crois que finalement on arrive à dire une chose, c'est que la méthode théologique à laquelle je reviens maintenant consiste à dire, mais finalement, on ne comprend pas tout, le réel nous échappe, et finalement, est une méthode qui est beaucoup plus proche de l'honnêteté scientifique qu'on ne pense. Je pense que les pères de l'Église, vous allez essayer de le montrer, avaient une honnêteté, au fond, de caractère scientifique, c'est-à-dire de Dieu, on ne peut pas dire qu'on le comprend. Ils étaient honnêtes, comme le sont tout esprit, comme un mis se heurtait à des philosophies ou des théologies de leur temps qui soit niaient l'existence de Dieu, c'est arrivé, soit niaient la divinité du Christ, c'est la question de l'arianisme, qui était une très très grave attaque de la vérité chrétienne à l'époque du IVe siècle, vous savez que c'est extrêmement grave, et on se heurtait aussi à des sous-produits de l'arianisme qui prétendaient qu'au fond, Dieu... ce que Dieu a expliqué de lui-même, c'est parfaitement clair, il n'y a rien à trouver d'autre, il n'y a pas de mystère en Dieu, tout est dit, et je ne veux pas être long là-dessus, mais il y avait un écrivain, un évêque aussi de l'époque, un évêque d'origine arienne, qui s'appelait Eunom, ce monsieur Eunom, donc avait développé, et développait, était avec beaucoup de brio d'ailleurs, la théorie suivant laquelle il n'y a rien à connaître d'autre de Dieu que ce qu'il a révélé lui-même, et puis voilà, le mystère est épuisé, vous voyez. Donc c'était des formes de pensée très primaires qui avaient beaucoup de succès, comme généralement les formes de pensée primaires, et les pères ont été obligés de réagir et de dire quand même quelque chose au sein de l'Église pour rétablir, sinon la vérité, en tout cas la vraie méthode de connaissance. Alors, je voudrais dire aussi que, si on veut, de mon point de vue, si nous voulons, nous approcher un peu de cette méthode de connaissance que celle des pères, et surtout de là, donc cette méthode de l'incompréhension, qui affirme l'incompréhensibilité divine, il faut partir non pas justement de la démarche grecque, hein, qui a donné au fond, qui est animé par ce désir d'objectivité et de certitude rationnelle, mais il faut partir de la démarche sémitique. Moi, je pense que la démarche des pères de l'Église est beaucoup plus d'expression sémitique, beaucoup plus d'expression juive qu'on ne le pense et qu'on ne le dit, et qu'ils ont été obligés d'employer le langage grec parce que c'était le langage qu'on parlait. Et ils se sont laissés, je pense, entraîner aussi dans des argumentations qu'ils n'auraient peut-être pas voulu et qu'ils ont regretté, parce qu'ils n'étaient pas du tout leur genre d'argumenter avec la logique humaine sur des sujets aussi importants. Dans le fond, la méthode patristique, elle est plutôt de type juif. Vous savez que dans la Bible, le contexte de la Bible, pour ce qui est de la connaissance, si vous voulez, plus du côté de la vie que du côté de ce qu'on appellerait, nous, la science. Connaître dans la Bible, ou connaître Dieu à plus forte raison, ça ne relève pas d'un savoir abstrait, mais ça relève d'une relation existentielle et d'une expérience concrète. Par exemple, on connaît la souffrance, parce qu'on a l'expérience de la souffrance, on connaît le péché, on connaît la guerre, on connaît la paix, on connaît le bien et le mal, parce qu'on l'expérimente. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on connaît l'essence de ces choses-là, la substance de ces choses-là, la nature exacte de ces choses-là. Mais on les connaît parce qu'on les vit et qu'on les expérimente. Et donc l'idée de connaissance, quand elle est appliquée à des personnes, elle désigne par exemple les relations familiales, la solidarité familiale. Dans le Deutéronome, par exemple, on parle de ça, où ça désigne les relations conjugales elles-mêmes, par exemple. La connaissance que les personnes ont les unes des autres dans la communauté humaine, c'est une connaissance relationnelle, communionnelle, si vous voulez, et en tout cas de type existentiel. Mais c'est pas une connaissance d'un objet par un sujet. Ça, on le dit tout le temps, mais il faut y revenir. C'est-à-dire que les pères, justement, à la suite de la pensée biblique, ont toujours voulu rester à l'écart de quelque chose qui aurait objectivé soit Dieu, soit l'homme, soit même le cosmos. Alors qu'au contraire, la pensée qui prétend être la pensée scientifique, disons, ou qui a voulu l'être en tout cas, est une pensée de l'objectivation et de l'objectivité. Donc dans la Bible, vous voyez, il y a vraiment cette réserve, c'est même pas une réserve, c'est que la question ne se pose pas, en fait. Je pense que là, pour la pensée juive, la question de connaître ce qu'est Dieu ne se pose pas. C'est-à-dire que la question de la connaissance, et pourtant, le psalmiste, l'homme de la Bible, il prétend connaître Dieu, mais il connaît Dieu parce qu'il le fréquente, parce qu'il vit avec lui, parce qu'il fait sa volonté, ou parce qu'il ne la fait pas. Et parce qu'il a un vécu commun, si je peux dire, avec Dieu. C'est pour ça que ça se voit dans plein de textes que je pourrais citer, évidemment. Et que Dieu lui-même, même s'il se révèle, il se révèle dans une relation interpersonnelle. C'est la personne divine qui se révèle à la personne humaine, comme on le voit. C'est vrai que c'est la base de ce qu'on appelle l'alliance dans la Bible. Qu'est-ce que c'est que l'alliance? L'alliance, avec un grand A, c'est essentiellement ce phénomène-là, c'est-à-dire l'entrée en dialogue de Dieu et de l'homme, et la réponse dans le dialogue de l'homme à Dieu, ou le renouvellement de ce dialogue, parce qu'on parle de plusieurs alliances, c'est un peu un abus de langage, parce qu'en réalité, il y a une seule et unique alliance qui commence à la création et qui se termine à la fin des temps, au retour glorieux du Christ. Mais cette alliance unique, qui est le lieu du dialogue et le lieu de la connaissance mutuelle de Dieu et de l'homme, est ponctué par des chapitres très très importants. C'est pour ça qu'on parle de plusieurs alliances, qui est vrai aussi, si vous voulez. Mais enfin, moi, je pense qu'il y a une unité profonde de l'alliance et du phénomène divino-humain, si vous voulez. Et alors, donc, dans ce contexte-là, Dieu se révèle, il fait connaître son nom dans l'Exode, il fait connaître la crainte qu'on peut éprouver de lui, il fait connaître sa tendresse, il fait connaître ses commandements, dont il présente comme des chemins de bonheur, en fait. Mais dans tout cela, il échappe. Ce qu'on appelle la transcendance de Dieu, c'est que même quand Dieu se fait connaître librement à l'être humain, il n'épuise pas ce qu'il est, et il n'épuise pas non plus qui il est. C'est pour ça que le prophète Job, dans le livre de Job au chapitre 36, il dit « Dieu est trop grand pour être connu, trop grand pour qu'on le connaisse ». Et pourtant, on le connaît, la preuve, c'est qu'il lui parle. Job n'arrête pas de parler à Dieu dans le livre qui raconte son histoire. Et Dieu n'arrête pas non plus de lui parler, donc il y a quand même une connaissance. Mais le connaître, c'est-à-dire épuiser et connaître Dieu de façon exhaustive, ça, ce n'est pas possible. Alors, j'ai un texte que j'ai apporté ici, que je trouve très intéressant, qui est écrit par le rabbin Gilles Bernheim, qui est grand rabbin de France, comme tout le monde sait. Et j'ai trouvé un texte de lui qui est très intéressant, où il explique justement un peu la façon juive de fonctionner dans le domaine de la connaissance. Je vous lis ça. C'est dans une interview donnée à La Croix, le 4 janvier dernier. Il dit là, la vie religieuse juive a toujours été marquée d'une certaine modestie théologique, d'une répugnance à concrétiser en formulation théologique la rencontre du juif avec le divin et à exposer l'expérience de la foi profondément personnelle et intime, ainsi que les questions de la vérité ultime. Vous voyez ? Donc ce n'est pas comme ça qu'on s'y prend. À cet égard, les sensibilités juives ont été profondément affectées par l'histoire de l'Exode, où Moïse supplie Dieu de lui permettre de voir sa gloire. Il est averti que c'est là pour l'homme une impossibilité. C'est seulement après le passage de Dieu que l'on peut discerner sa présence. Pour poursuivre la métaphore, le judaïsme n'a pas investi ses énergies les plus créatrices dans l'entreprise théologique, dans ces domaines où se révèle la face de Dieu. Au lieu de cela, il a orienté son imagination religieuse vers les traces laissées par la présence divine lorsqu'elle passe à travers l'histoire humaine. Pour une telle tâche, la halakha, c'est-à-dire une leçon qui enseigne une conduite à tenir, qui énonce une loi, est un guide plus sûr que la théologie. Fin de citation. Donc vous voyez, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, le rabbin Bernheim, là, il dit bien que la voie de la connaissance de Dieu, c'est en fait vivre avec Dieu, vivre selon la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, suivre les commandements de Dieu, et non pas une spéculation. Or, les pères de l'Église, les pères orientaux, qui étaient souvent d'origine syrienne, souvent formés aussi en Palestine, comme Saint Basile lui-même, ils fonctionnaient de la même façon, mais simplement, à mon avis, ils sont sortis souvent de cette méthode-là par obligation. Et c'est ce que dit Saint Basile dans le Contre-Nom, d'après au début, c'est le début de son traité Contre-Nom, livre 1, chapitre 1, première ligne, voici ce qu'il dit, et vous allez voir que, justement, il s'excuse en quelque sorte. Il dit bien que la méthode, c'est ce que j'ai expliqué l'autre jour du dogme, c'est-à-dire on vit la vérité dans l'Église et on la vit avec précision, mais on la vit, c'est un mode de vie, au fond, la vérité révélée. Mais quelquefois, on est obligé, et c'est le kérigme, on est obligé de sortir de ça et d'expliquer parce qu'il y a un danger, il y a un risque de déviation. Et je pense que les Juifs eux-mêmes, dans beaucoup de cas, se sont sentis obligés de prendre les armes d'une parole beaucoup plus claire pour réfuter ce qu'ils considéraient comme des erreurs. Il y a aussi des textes polémiques juifs pour défendre la vérité mosaïque. Donc ça peut arriver à tout le monde, je peux dire. Hein. Mais ça ne remet pas en question ce qui est la démarche profonde. Vous voyez. Alors voici ce que dit Saint Basile dans le Contre-Nom au début. Si, vous allez voir, si tous ceux sur lesquels le nom de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ a été invoqué voulaient bien ne rien tenter contre la vérité de l'Évangile, mais se contenter de la tradition des apôtres et de la simplicité de la foi, nous n'aurions pas besoin de parler aujourd'hui, et nous aurions à cœur, maintenant encore, d'observer tout à fait le silence que nous avons respecté depuis toujours. Ça vous dit quelque chose, exactement ce que vous avez présenté la dernière fois à propos du dogme. On n'a pas besoin de parler tellement plus. On chante, on s'élève, on vit, on suit les commandements, on essaie d'être chrétien, on reste en communion les uns avec les autres. Voilà, nous aurions à cœur, maintenant encore, d'observer tout à fait le silence que nous avons respecté depuis toujours. Le mot silence est un mot très important, vous voyez. Pensez que théologiquement, ce mot revient fréquemment, on va le retrouver si j'arrive à présenter tout ce que j'ai préparé, vous verrez qu'il revient fréquemment dans le domaine de la connaissance. C'est pas nécessaire de tout dire, surtout parce qu'on ne sait pas tout de Dieu. Mais voici que l'ennemi de la vérité introduit sous les apparences de christianisme la négation de la divinité de l'unique engendré. C'était alors une nécessité pour nous d'entreprendre, de venir en aide à la vérité. Donc vous voyez, une certaine théologie très, très précise, un peu technique, un peu systématique, elle est le produit de la nécessité. C'est parce qu'on est obligé que, il faut bien de temps en temps écrire un bouquin, faire une conférence, passer à la télévision ou passer sur orthodoxie.com, je ne sais pas, pour préciser quand même les notions. Mais c'est vraiment parce qu'on est obligé qu'on le fait. Autrement, non. Autrement, on ne le ferait pas. On resterait dans le silence. On vivrait simplement dans la communauté chrétienne qui est notre Église orthodoxe. Donc voilà, ça, je pense que ça pose un petit peu le problème. J'espère que c'est intéressant. Enfin, pour moi, c'est assez clair. Je suis très sensible au fait, si vous voulez, qu'il y ait une continuité entre la méthode de connaissance sémitique et la méthode de connaissance dont les pères de l'Église, les pères cappadociens en particulier, font état. Je crois que c'est très, très, très important. C'est-à-dire que la ligne sémite dans le christianisme, très 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 importante, très forte, surtout chez les pères de l'Église, même chez ceux qui ont été, par exemple, c'est le cas de Chrysostome, qui ont été capables de positions très polémiques à l'égard des Juifs. Très très, Chrysostome a des passages très 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 violents. Mais n'empêche que lui, en tant que méthode, il fonctionne comme eux. Il se réfère constamment à des exemples bibliques. Alors, un autre point qui peut être intéressant et important, c'est de dire rapidement, est-ce qu'il y a une origine du concept d'incompréhensibilité ailleurs que dans la Bible? Ça, c'est important, si vous voulez, parce que finalement, les pères de l'Église, ils sont enracinés dans la Bible, et à mon avis, ils sont enracinés dans la tradition juive beaucoup plus qu'on ne le dit. Et en même temps, finalement, ils se trouvent dans un contexte d'Antioche, par exemple, des grandes capitales de l'Empire romain, un contexte d'une culture très, très, très hellénisée et très marquée par la philosophie de l'Antiquité. Donc, finalement, on a besoin de savoir, au fond, quelle forme de synthèse ils ont pu opérer, ne serait-ce que dans leur vocabulaire. Il faut savoir que, dans l'Antiquité, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'usage de ces termes se rapportant à l'incompréhensibilité. Par exemple, Aristote l'emploie quand même, un peu, une fois ou l'autre, le terme de akataleptos, de incompréhensible, que je vais reprendre, qu'on trouve tout le temps chez Saint-Jean-Christophe. Aristote est employé un petit peu, mais il est employé, ça veut dire quelque chose qu'on ne peut saisir ou comprendre, quelque chose qu'on n'a pas saisi. À la limite, c'est un sens un peu péjoratif. C'est plutôt quelque chose qu'on n'a pas compris, vous voyez. Et le même mot, agnostos, par exemple, ça veut dire ignoré, inconnu. Ça peut éventuellement un sens péjoratif, ça peut vouloir dire quelque chose qu'on a méprisé simplement, qu'on n'a pas vu parce qu'on est passé trop vite. Inconnaissable, plutôt dans un sens péjoratif. C'est intéressant, c'est-à-dire que finalement, pour la mentalité grecque, ce qui n'est pas connu, ça existe à peine, vous voyez. Et ça se retrouve d'ailleurs en Europe occidentale, dans la philosophie occidentale, quand même, on a eu presque des proverbes philosophiques du genre ce qui existe et ce qui peut être rationalisé, ce qui s'explique existe, ce qui n'est pas démontré n'existe pas, ce qui est rationnel est réel, c'est un propos philosophique quand même qu'on trouve chez beaucoup de philosophes occidentaux. Voilà, ce qui est rationnel est réel et ce qui est réel est rationnel. Ce qui n'est pas rationalisable par la pensée humaine, c'est pas réel, ça existe peut-être, mais finalement, on n'a pas grand-chose à faire. Mais ça, c'est assez typique au fond des mentalités grecques. La mentalité sémitique, c'est autre chose. C'est que, évidemment, l'être humain est devant devant la merveille de l'existence, la merveille incompréhensible de l'existence, et ça ne l'empêche pas de fonctionner, vous voyez. Le juif, à un moment donné, n'est pas gêné par le fait de ne pas comprendre, alors que le grec, ça le gêne beaucoup, beaucoup. Et nous, les chrétiens, les orthodoxes, nous sommes capables de dire, mais attends, on ne comprend pas tout, c'est pas parce que tu n'as pas compris que ça n'existe pas. Alors, même si on n'a pas encore expliqué, ça existe quand même. Une jeune fille me disait encore à sa maman hier, moi je ne crois que ce que je vois. Bon, d'accord, mais ça c'est... Bah oui, mais il y a des tas de choses qu'on ne voit pas et qui existent. Mais rappelez-vous ce que dit le Christ à Thomas, l'apôtre, il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Vous voyez, donc c'est très intéressant parce que ça veut dire que dans l'évangile même, il y a l'annonce de cette méthode de connaissance que quelque chose qu'on n'a pas vérifié palpablement, ça peut exister quand même. Quelque chose qu'on n'a pas démontré ou expliqué rationnellement, ça peut exister quand même. Vous voyez. Donc ça, c'est ça un peu le sujet, si vous voulez, vous allez dire, c'est du bon sens, on est en train de parler, tout le monde dit ça. Non, justement, tout le monde ne le dit pas. Moi, quand je lis sur une revue, dans un kiosque, tout s'explique, ben, je vois bien qu'on est quand même loin du compte. Hein, qu'il y a quand même un préjugé partout et qui gêne beaucoup les chrétiens, et qui met les chrétiens se sentent en porte-à-faux quand ils ne peuvent pas tout expliquer. Ils ont l'impression d'être tout nus, parce qu'ils n'ont pas réussi à démontrer que Dieu existe. Ben, non. Ça ne devrait pas être un problème si nous étions vraiment chrétiens, si nous étions chrétiens à la façon, je dirais, orientale quand même, et à la façon patristique, ça ne nous gênerait pas du tout. Ça nous gênerait pas du tout. Moi, on peut aimer sans tout comprendre. Et bien sûr, on ne fait que ça d'ailleurs. On ne fait que ça. Bon, donc chez les Grecs, il n'y a pas grand-chose. Et le premier texte, alors, qui est à la jonction du judaïsme et de l'hellénisme, justement, c'est Philon. Philon d'Alexandrie, un très grand intellectuel judéo-hellénique, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il utilise la culture grecque au maximum, mais pour exprimer la pensée juive, exactement comme l'apôtre Paul. Il y a une grande similitude entre Philon d'Alexandrie et l'apôtre Paul, c'est quand même des personnes qui sont formées à l'école rabbinique de leur temps et qui utilisent la langue de la culture générale de l'époque pour l'exprimer. Alors ça, effectivement... pratiquement tous les thèmes des pères en ce qui concerne la théologie, on les trouve de près ou de loin chez Philon d'Alexandrie. Par exemple, voilà ce qu'il dit: le bien le plus grand est de comprendre que Dieu, selon son essence, est incompréhensible à tout être. Et c'est le bien le plus grand, c'est important, c'est-à-dire que le sommet de la connaissance, c'est déjà l'incompréhensibilité, et plutôt d'accepter l'incompréhensibilité du divin. Ça, c'est dans la postérité de Caïn, au chapitre 15. Et encore, il dit, nous n'en pouvons connaître, donc de Dieu, du divin, nous n'en pouvons connaître que l'existence et les manifestations. Également dans la postérité de Caïn, celui qui voudrait voir l'être souverain serait aveuglé par l'éclat de ses rayons avant de le voir. Et, donc ça, c'est très typique de la pensée de Philon d'Alexandrie, mais qu'en fait, c'est la pensée juive, ça, vous voyez. C'est la pensée juive. Et c'est ça que les pères de l'Église reprennent les uns après les autres, avec beaucoup de développement, surtout, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, surtout à la faveur des controverses de l'arianisme. Et que l'arianisme a été une crise théologique gravissime, c'était une négation absolument de la Trinité, donc évidemment la foi chrétienne, la négation de la divinité du Fils, bon, c'est-à-dire que si le Christ n'est pas Dieu, il n'y a plus de christianisme, il y a bien entendu une négation de la divinité de l'Esprit, enfin bon, donc c'était... Et donc ça a obligé les pères comme Hilaire, comme dit Saint Basile, ça les a obligés à formuler... Et ça a obligé aussi à donner une forme kérigmatique, justement, à la foi chrétienne. Donc, en fait, la position des pères consiste à simplement souligner, chanter et glorifier continuellement la transcendance radicale du Dieu de la Bible. Ben parce que la connaissance de l'essence divine est au-dessus des forces naturelles de l'homme. Ça, c'est dit tout le temps par Justin, le philosophe, dans ses dialogues, Clément d'Alexandrie, Saint Irénée, Origène. Et en même temps, il y a une aspiration à la connaissance. Rien de paradoxe, parce qu'on est là à dire, on peut pas connaître Dieu, et en même temps, on est là à dire, mais attends, la vraie vie, c'est de connaître Dieu. Par exemple, Saint Jean, dans le chapitre 17, nous rapporte ce texte, qui est en fait le dialogue du Fils avec le Père. C'est le dialogue, le discours du Christ adressé au Père Céleste. Un texte absolument extraordinaire. Extraordinaire, c'est probablement un des textes que je préfère dans l'Évangile. Quand le Christ dit, en s'adressant au Père, « La vie éternelle consiste en ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Mais on voit bien qu'il s'agit de la connaissance, il s'agit d'une personne qui te connaisse, toi, la personne du Père, à qui, moi, le Fils, je suis en train de parler. Il ne s'agit absolument pas d'une connaissance de ce qu'il est, vous voyez. C'est plutôt qui il est. Et donc, si vous voulez, on tourne toujours un petit peu autour de ça. Connaître Dieu, ce n'est pas connaître ce qu'il est, c'est connaître qui il est, c'est connaître qu'il existe, c'est savoir qu'il existe, mais ce n'est pas en aucun cas établir une science de Dieu. Vous voyez. Une science de Dieu, ce serait une connaissance qui dirait ce qu'est la nature de Dieu. Vous voyez. Et ça a été tenté. Vous savez, en Europe occidentale, il y a quand même des démonstrations de l'existence de Dieu, il y a la preuve de Saint Anselme, enfin, il y a quand même tout un effort scientifique en Europe occidentale pour faire de la théologie justement une science de Dieu. Et ça, c'est très, 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 très éloigné de la mentalité chrétienne traditionnelle, je dois dire, et de la mentalité chrétienne orientale et patristique, pour qui il n'y a pas de science de Dieu, vous voyez, ça ne... Mais ça, c'est quand même important. Nous, ce que nous pensons, les orthodoxes, c'est que si on commence à essayer de faire une science de Dieu, on entre sur un terrain qui est absolument miné. Parce que, comme disait Saint-Gervais Palamas, quand on aura démontré que Dieu existe, viendra une autre personne qui va nous démontrer que Dieu n'existe pas. Donc on va être prisonnier des démonstrations pour et contre, on n'a absolument aucun avenir, et au bout du compte, on n'aura rien dit. Et on aura traité Dieu comme un absent, ou comme un cadavre. C'est peut-être ça que voulait dire Nietzsche quand il disait que nous avons tué Dieu. Et nous, c'est la pensée occidentale qui a tué Dieu en le transformant en objet, c'est-à-dire en rien. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne quand Dieu devient une chose dont on parle, et même qu'on veut, même si on veut en démontrer l'existence. Bon, donc vous voyez, alors donc les pères parlent principalement de l'incompréhensibilité de l'être divin, mais je dirai tout à l'heure si je peux, ils parlent également de l'incompréhensibilité de son comportement, de ses desseins, de ses jugements. Et pas seulement, Dieu n'est pas seulement incompréhensible dans sa nature, mais il est également incompréhensible dans ses actions. Et c'est bien l'expérience que nous avons. Et donc ça, moi, ça m'intéresse beaucoup, ça, parce que c'est très, c'est tout à fait notre situation dans notre vie de foi. Si nous ne pouvons pas accepter que le comportement de Dieu à notre égard est incompréhensible, si nous voulons absolument comprendre tout ce que Dieu fait ou ne fait pas pour nous, pourquoi il nous exauce, pourquoi il ne nous exauce pas, etc., nous n'en sortons pas, et à un moment ou à un autre, nous risquons de perdre le contact avec lui, nous risquons de douter. Alors, si nous mettons vraiment l'incompréhensibilité de Dieu en numéro un, en disant, mais Dieu est incompréhensible, je l'aime, mais je ne le comprends pas, mais c'est-à-dire que je l'aime suffisamment pour avoir confiance en lui, mais je ne peux pas m'expliquer pourquoi Dieu me laisse tomber dans telle situation, pourquoi il m'aide dans une autre, pourquoi, c'est ce que disent toujours les personnes. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ça qui se passe dans le monde, etc. Et ça, ce sont des raisonnements humains. Nous, les chrétiens orthodoxes, nous fonctionnons sur la base de l'incompréhensibilité de Dieu. On dit, ben, oui, effectivement, mais on ne comprend pas tout. Probablement que Dieu a ses raisons, Dieu a son jugement. On s'incline devant sa transcendance, et en même temps, on voit bien qu'il nous inspire de la compassion, on voit bien qu'il nous inspire de l'amour les uns pour les autres, et on voit bien aussi que de temps en temps, il nous inspire des idées. Je pense à ça parce que j'ai préparé tout à l'heure l'évangile pour le dimanche 17. Vous savez que je prépare, nous préparons chaque semaine l'ordo pour le doyenné orthodoxe roumain de France, et envoyé à toutes les paroisses, à tous les prêtres, et donc nous avons préparé aujourd'hui l'ordo du 17. Alors, l'ordo du 17, c'est le dimanche de la cananéenne. Qu'est-ce qui se passe avec la cananéenne? C'est justement, elle est là, voilà une personne qui est là, prier pour la guérison de sa fille, et Dieu lui répond, ben non, je ne suis pas venu pour les païens, je suis venu que pour les juifs. Après ça, elle insiste encore, et dit, non, mais de toute façon, on ne va pas donner aux chiens ce qu'est la nourriture des enfants de Dieu. Enfin, c'est vrai que ça la laisse perplexe. Alors, cette personne-là, elle ne lâche pas le morceau, si je peux dire, bien que le comportement de Dieu soit totalement incompréhensible et bizarre, disons, à son égard, il faut quand même le reconnaître, elle continue à avoir foi, elle continue à demander, elle continue à prier. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est quelqu'un qui fonctionne justement de cette façon-là. C'est-à-dire qu'elle accepte que son interlocuteur divin, qui est le Christ, bah, soit complètement paradoxal dans sa façon d'être avec elle. En fait, il est comme ça parce qu'il l'éprouve, hein, ce qu'on peut expliquer par ailleurs. Donc, vous voyez, c'est très important, ça. Origène, par exemple, Origène qui est donc des références profondes pour tous les pères cappadociens, puisqu'il a... Ils l'ont beaucoup utilisé, ils l'ont beaucoup cité, ils l'ont beaucoup paraphrasé. Origène est une référence très très importante pour la pensée papistique, quoiqu'il n'est pas un père de l'Église, vous savez, parce qu'il y a des passages chez lui qui sont pas très clairs, enfin, qui n'ont pas pu être vraiment considérés comme étant l'expression de la foi générale de l'Église. Mais sur ce sujet-là, il est très clair, la question de la compréhensibilité ou de l'incompréhensibilité de Dieu. Dieu, dit-il, est incompréhensible. Et il est impossible de le penser. Au fond, Dieu est impensable. Dieu est impensable. Si nous pouvons penser ou comprendre quelque chose de Dieu, il faut croire qu'il est très loin au-dessus de ce que nous jugeons de lui. C'est dans un livre très intéressant qui s'appelle Le Traité des Principes. Vous voyez ? Donc ça, c'est très important. Ça, c'est l'idée qu'on est devant l'impensable, on est devant l'incompréhensible. Alors effectivement, vous avez une partie des personnes qui vont dire si Dieu est impensable et incompréhensible, etc., bon, il n'y a qu'à faire autre chose, laissons tomber. C'est-à-dire qu'il faut, je pense qu'une partie des êtres humains sur Terre ne va pas supporter d'avoir une relation profonde avec quelqu'un qu'ils ne comprennent pas. C'est le problème de la vie conjugale, c'est le problème de la vie au monastère, de la vie dans les communautés. Nous vivons avec des personnes dont nous ne comprenons pas tout, dont nous ne savons pas tout. Et aimer, c'est probablement ça, c'est accepter de vivre avec quelqu'un dont on ne comprend pas tout et dont on ne comprendra peut-être jamais tout. Il y a peut-être quelqu'un qui est à jamais incompréhensible. Mais alors ça, la solution, c'est soit je le quitte, je la quitte, parce que là on se comprend plus, comme on dit en mauvais français, dans la problématique du divorce. C'est vraiment très intéressant. La problématique du divorce, c'est la problématique de la relation divino-humaine. Ça, vous savez très bien, dans la Bible, chaque fois qu'il y a un conflit entre Dieu et l'homme, c'est exprimé par la métaphore du couple. Ben, le couple, souvent, est sur cette base-là, c'est-à-dire on ne se comprend plus. On ne se comprend plus, donc on décroche et on laisse tomber la relation. C'est-à-dire qu'on renonce à vivre sans tout comprendre. Alors, dans les textes de Saint Basile, donc ce livre qui s'appelle Contre un homme, alors ce n'est pas le sujet ici d'expliquer ce que c'était que l'anoméisme, enfin rapidement, un homme et ses partisans défendaient une théorie qu'on appelait l'anoméisme. L'anoméisme, vous savez, c'était une théorie qui consistait à dire le Fils est dissemblable du Père quant à la nature. C'est-à-dire que le Fils n'est pas consubstantiel au Père. C'est ça l'anoméisme. C'est une variante de l'arianisme. Bon, donc ces gens-là étaient extrêmement puissants. Et il y avait à l'intérieur de l'Église une très grande influence. C'est pour ça que les pères anciens, Saint Basile, Saint Grégoire de Nice, Saint Jean Chrysostome ensuite, ont été obligés de dire quelque chose parce que ça passait à l'intérieur de l'Église. Imaginez qu'à l'intérieur d'une Église, dans les Églises orthodoxes, on ait un évêque ou des prêtres qui commencent à enseigner qu'il n'y a pas de Trinité, on serait quand même obligé de dire quelque chose, de ne pas laisser prêcher dans l'Église quelque chose qui est en contradiction avec ce que dit l'ensemble de l'Église. Vous voyez. C'est un cas de déposition, c'est un cas de suspension, on fait quelque chose, c'est pas possible. Donc c'est ça qui s'est passé. Mais ce qui est intéressant, c'est que à cette occasion, Saint Basile a exprimé des idées très intéressantes relatives à la question de la connaissance de Dieu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, comme j'ai dit au début de ce cours, c'est qu'on puisse parler de Dieu un petit peu quand même. Comme j'ai une fois, je trouve que dans l'Église, on ne parle pas beaucoup de Dieu, nous parlons beaucoup de nous-mêmes, de nos petits problèmes, de notre psychologie. Mais s'intéresser à Dieu et voir jusqu'où on peut aller dans cet intérêt passionné qu'on lui porte, sur quoi ça débouche, en quoi c'est sérieux, en quoi c'est passionnant, ça vaut quand même la peine. Donc, Saint Basile reprend cette réflexion dans le Contre-Nom, il dit même quand le Seigneur parle de lui-même, hein, c'est assez intéressant, il ne révèle pas son essence, mais il parle de propriétés que l'on peut considérer de lui. Par exemple, le Christ dit « Je suis la vérité, la vie, le chemin. Enfin, bon, il dit ça de lui-même, mais il ne définit pas son essence. Vous voyez, il dit ce sont ses propriétés, ses caractéristiques en quelque sorte. Vous voyez, car en fonction de la diversité de ses activités et de la relation qu'il entretient avec les objets de sa bienveillance, il s'applique à lui-même des noms différents. Il se dit la lumière du monde. À la fois, il dit ça, le Christ, hein, je suis la lumière du monde. À la fois pour indiquer clairement par ce nom l'inaccessibilité de sa gloire, de la gloire qui est dans la divinité, et parce qu'il illumine de la splendeur de sa connaissance ceux dont les yeux de l'âme ont été purifiés. Mais il ne révèle pas son essence. Il ne dit pas ce qu'il est. Il dit comment il se comporte. Il dit ce qu'il est pour nous. Voyez, il se dit la vigne. Il dit, je suis la vigne. Il dit ça parce qu'il nourrit ceux qui ont pris racine en lui selon la foi pour qu'ils fructifient en œuvre bonne. C'est dans le contre-nom. Donc, ce que Dieu dit de lui-même, ce que Dieu, le Dieu homme, dit de lui-même, ça ne définit pas son essence, ça ne définit pas sa nature. Ça exprime son comportement ou le mode de relation qu'il a avec nous, que nous avons avec lui. Penser connaître la substance de la divinité est une folie. C'est ce que dit encore saint Basile. Penser avoir découvert la substance. Alors, en grec, le mot substance est ousia. Penser avoir découvert la substance même de Dieu qui est au-dessus de tout, quel orgueil et quelle vanité. Et là, ici, ça réfère à la Bible, justement, à David. Ça, ses pères cappadociens, saint Basile, saint Jean Chrysostome, saint Gregoire, tout le temps, prennent dans les psaumes. Les psaumes sont vraiment une mine pour la pensée théologique, en fait. C'est vraiment important. Les psaumes sont des textes théologiques. Les textes liturgiques, les textes de prière, tout ce que vous voulez, mais ce sont des textes théologiques. Et c'est cette théologie que les pères vont chercher. Donc, par exemple, ici, le grand David, dit saint Basile, à qui Dieu avait montré les secrets cachés de sa sagesse, je crois que c'est dans le psaume 50, ne confesse-t-il pas clairement que cette connaissance est chose inaccessible en disant « Ta connaissance est pour moi un objet de mystère, une forteresse. Non, je ne puis l'atteindre. » C'est dans le psaume 138. Vous voyez, on va chercher la pensée juive, justement, pour fonder cette notion, ce concept, si vous voulez, d'incompréhensibilité. Et plus loin, saint Basile, toujours le même, toujours dans les mêmes textes, dit, en fait, Dieu seul connaît Dieu. Alors ça, c'était la réfutation principale des théories d'un homme. Parce qu'un homme disait, mais au fond, Dieu se connaît, mais nous connaissons Dieu exactement comme il se connaît lui-même, parce qu'au fond, il a tout révélé de lui-même, il a été totalement épuisé tout ce qu'il avait à connaître de lui-même. Donc, Dieu, nous connaissons Dieu comme Dieu se connaît lui-même. Bon, ça mettait un frein à toute recherche plus profonde. Et saint Basile dit, sa compréhension ne dépasse pas seulement les hommes, mais elle dépasse toute nature raisonnable. Je veux dire celle qui appartient à la création. Et alors là, ici, il s'appuie beaucoup. Donc vous voyez ce qu'il dit, c'est très important. C'est-à-dire que la question de l'incompréhensibilité de Dieu, ce n'est pas seulement une question qui relève de des limites de la connaissance humaine. Mais quand il dit toute nature raisonnable qui appartient à la création, ça veut dire, je vais y revenir tout à l'heure, c'est-à-dire que ça concerne les anges eux-mêmes. Le monde angélique n'en sait pas plus sur l'essence divine que nous n'en savons. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une connaissance objective, en fait. Hein, les anges chantent Dieu, les chérubins, les séraphins, ils dansent autour du trône de Dieu en disant saint, 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 saint. Mais quand on a dit Dieu est saint, on a dit Dieu est saint, mais on n'a pas dit ce que c'est que la sainteté. On a exprimé l'émerveillement devant la grandeur, la majesté et justement l'incompréhensibilité et la transcendance de Dieu, mais on n'a rien fait d'autre, on n'a pas prétendu faire autre chose d'ailleurs. Vous voyez, c'est la créature, c'est ça qu'elle fait, elle sanctifie Dieu, mais elle ne le définit pas. C'est pour ça que dans notre Père, le Christ nous a appris ça, il a dit « Sanctifié soit ton nom, agastito toonomasu, hallowed be thy name ». Les Anglais ont trouvé une tradition qui colle exactement au texte grec. « Sanctifié soit ton nom », et non pas « explique-nous ce que veut dire ton nom ». On ne sait pas ce que ça veut dire, le mot Dieu. On ne sait pas. C'est le nom qu'on lui donne, c'est le nom. Mais ce nom reste lui-même inépuisable. Et alors, il cite beaucoup, alors il cite dans saint Matthieu une parole du Christ lui-même disant « Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils ». Ça c'est important, c'est que la connaissance de Dieu, c'est un événement interne quand même à la Trinité. Dieu se connaît lui-même, disons. Et il cite aussi saint Paul dans l'épître, la première épître aux Corinthiens, quand saint Paul dit « L'Esprit, avec un grand E, scrute tout jusqu'aux profondeurs de Dieu, et personne ne connaît ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit qui est de Dieu. » Première épître aux Corinthiens. Alors ça, c'est là qu'on voit que la théologie de saint Paul est une densité, une précision et d'une justesse exemplaire. Vous voyez, c'est très très clair. Donc seul Dieu connaît Dieu. Alors ce qui veut dire aussi que, à la limite, quand même, quelqu'un qui serait habité par l'esprit de Dieu pourrait s'approcher de manière asymptotique, en quelque sorte, du trône de la divinité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit lui-même, c'est la première épître à Timothée, « Ce qu'on peut connaître de Dieu, c'est ce que Dieu a manifesté à tous les hommes. » Ce que paraphrase ici saint Basile. Alors, vous voyez un petit peu comment, déjà, on progresse un peu sur ce thème, qui vous paraît, je pense, déjà assez évident. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre comme ce soit, c'est plutôt pour le plaisir, enfin aussi, de nous consacrer à cette question. Et parce que c'est tellement important pour nous, surtout dans la liturgie, les deux liturgies principales que nous célébrons, c'est-à-dire la liturgie selon saint Chrysostome et la liturgie selon saint Basile, ont des textes qui sont principalement des textes glorifiant l'incompréhensibilité divine. Et donc, si vous voulez, c'est un contexte liturgique pour nous. Hein. Alors, donc je ne reviens pas sur le fait que saint Chrysostome a écrit ses homélies sur l'incompréhensibilité de Dieu, justement dans le même contexte de l'anoméisme, et de la réfutation de Nom, bon, ce que j'ai déjà, on en a déjà parlé. Ce qui est intéressant, c'est chez saint Chrysostome, pour peut-être avancer quand même, c'est son vocabulaire. Son vocabulaire. Parce que donc, vous avez bien compris que les pères mettent l'accent sur l'incompréhensibilité de l'essence divine, même pour l'intelligence éclairée. Hein, par exemple, je prends un exemple, ce ne sont pas les pères qui le disent, mais c'est moi qui donne cet exemple-là pour illustrer le propos. La mère de Dieu. La mère de Dieu. La mère de Dieu, elle est quand même chantée comme au-dessus des séraphins et des chérubins. Plus glorieuse, incomparablement. Et quand nous disons ça de la mère de Dieu, c'est pas des belles chansons d'église, c'est pas des... c'est pas des petites chansonnettes pour faire joli à l'église. Nous exprimons ce qui est la foi chrétienne ancienne. La mère de Dieu est glorifiée plus haut que les chérubins, plus haut que les séraphins. Au-dessus même des hiérarchies angéliques. Or même la mère de Dieu, même à cette place-là, la mère de Dieu est devant le mystère et l'incompréhensibilité de Dieu. Et la mère de Dieu n'est pas, même s'il est la première des théologiennes, la plus grande des théologiennes de tous les temps et de tous les lieux, etc., est plus théologienne que les séraphins et les chérubins eux-mêmes, et la mère de Dieu n'est pas quelqu'un qui sait tout de Dieu. Vous voyez, c'est intéressant qu'on voit dans le triode, surtout, la partie de la semaine sainte, quand la mère de Dieu exprime justement sa perplexité devant ce qui arrive à son fils. On voit bien que justement, si je dirais, c'est la croix de la mère de Dieu, c'est d'être crucifiée à l'incompréhensibilité des desseins de Dieu. Elle ne comprend pas, vous voyez. Et elle dit ça constamment dans ces parties liturgiques que nous avons, que nous appelons les Theotokia, ou les Stavrotokia, qui sont des petites compositions poétiques qui sont chantées pendant la semaine sainte, principalement, pendant le grand carême, dans le triole, et qui exprime justement la perplexité de la mère de Dieu. Et pourtant, elle était aussi haute que cela. Vous pensez que la créature qui a pu concevoir Dieu dans ses entrailles, je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi on parle, la créature qui a pu concevoir Dieu dans ses entrailles, eh bien, elle-même, est crucifiée à l'incompréhensibilité de celui qu'elle a conçu. C'est très 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 important ça, vous voyez. La mère de Dieu ne sait pas tout de Dieu, et pourtant elle l'a conçu. Alors elle connaît, puisqu'elle est sa maman, comme dit l'autre. Ben oui, ben. Et ça, c'est une erreur de dire ça, parce que nous savons très bien que les parents ne sont pas du tout les mieux placés pour tout savoir de leurs enfants, bien sûr. Donc c'est très important, ces choses-là, vous voyez. Ça veut dire que la mère de Dieu a pu être aussi proche du Fils de Dieu, c'est-à-dire de Dieu lui-même, aussi proche qu'on peut l'être, et ne pas tout savoir de lui. Vous voyez. C'est-à-dire d'être... Dire, c'est intéressant de voir que la grande théologienne que la Mère de Dieu, elle s'exprime dans ce très bel hymne qui nous est donné par l'évangéliste Luc. « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sauveur, etc. » Qu'est-ce qu'elle fait, la Mère de Dieu? Elle n'est pas là à dire « J'ai tout compris de Dieu, les enfants, je vais vous expliquer, tout s'explique. » Elle n'est pas, non, elle dit « Mon âme magnifie, je glorifie. » Oui, elle est vraiment, c'est ça la théologie en fait. La grande théologienne, c'est quand même la Mère de Dieu, pour ça. Parce qu'elle nous montre que la théologie, c'est essentiellement une glorification, mais que cette glorification inclut l'incompréhensibilité de ceux ou de celui que l'on magnifie. Et même nous, quand nous magnifions la Mère de Dieu, toi, véritablement, la Mère de Dieu, nous te magnifions. Alors, la magnifie, c'est-à-dire, ça veut dire magnifier. Mégalino, en grec, ça veut dire dire tu es grand, tu es très grand, tu es très beau, c'est dire du... C'est exalter la grandeur de quelqu'un ou de quelque chose. Mégalino ou magnifier, c'est là, c'est vraiment la même chose. Pour une fois, le texte, le mot grec a son équivalent en français. Mais nous magnifions la Mère de Dieu, mais personne ne peut donner une explication de cette maternité divine. Vous voyez. Et dire les personnes qui essaient d'expliquer comment elle a pu, par parthénogenèse, etc., ceci. Bon. N'en sortent pas parce qu'il y a une raison précise, c'est que une parthénogenèse, en principe, c'est la production d'un être du même sexe. Et or, justement, bah non, pas ce qui s'est passé, elle produit un être de l'autre sexe, un garçon. Alors, donc, ça ne colle pas. Hein. Donc, on ne peut pas entrer avec les outils de la science dans le mystère de la naissance virginale. Vous voyez, non seulement c'est un petit peu ridicule, mais c'est une entreprise vaine, parce qu'on n'est pas dans une réalité qui peut être de l'ordre de la compréhension. Alors, à plus forte raison, quand il s'agit de l'essence même de Dieu. Voilà, donc, sans abuser de votre... ils mettent l'accent en tant que sur l'incompréhensibilité de tout, mais pour toute créature, c'est ça que je voulais dire. Hein. Il n'y a pas seulement aux hommes, mais aux anges, et même à ceux qui sont au-dessus des anges, comme la Mère de Dieu. Alors, c'est assez important, ça. C'est que si Dieu est incompréhensible à toute créature, ce n'est pas en raison du péché. Que souvent, ça peut exister aussi, hein, c'est-à-dire que l'impureté de notre vie, l'impureté de nos pensées, de notre âme, de notre cœur, fait que nous sommes encore plus incapables de connaître Dieu, de comprendre ses desseins et de nous approcher de lui. C'est vrai. C'est pour ça que nous purifions, surtout pendant le carême, par exemple. Le but du carême, c'est quand même de voir Dieu. Enfin, c'est clair, hein. Donc, personne ne peut voir Dieu s'il ne se purifie pendant ces 40 jours, comme l'a fait Moïse avant d'arriver sur le mont Sinaï. Et là encore, il n'a pas vu Dieu de face. Il a connu, comme dit M. Bernheim, Dieu une fois que Dieu fut passé. Il a connu le passage de Dieu. Mais donc, on peut. Voilà, il y a la question du péché, c'est vrai, de l'impureté. Mais ce n'est pas le fond du problème. La preuve. C'est que la Mère de Dieu, qui est vraiment de la pureté totale, et les séraphins, et les chérubins, et le monde angélique, dans son élévation, vraiment sans souillure, hein, c'est quand même un monde de créatures impeccables. La Mère de Dieu, dans son impeccabilité, n'a pas une connaissance totale et exhaustive de la divinité. Donc c'est autre chose, le problème est ailleurs. Le problème, il est qu'il y a une différence radicale du créé et de l'incréé. Alors c'est ce qui explique assez bien, je crois, je n'ai pas repris les textes, mais je ne crois pas me tromper, en disant que c'est ce qu'explique Origène dans un livre qui s'appelle « Contre Cels ». Cels était un philosophe grec, les chrétiens ont été confrontés à ça tout de suite. Hein. On reproche au père de l'Église d'avoir pris le langage des philosophes de leur temps, mais on ne comprend pas qu'ils étaient obligés, ils étaient confrontés, et il y avait une question de vie ou de mort de la communauté, il fallait arriver à préserver la communauté chrétienne de l'invasion des concepts du monde. Exactement comme nous, actuellement, nous sommes obligés de faire en sorte que nos communautés ne soient pas rongées par le langage psychologique, par la sociologie, les langages sociologiques, les langages philosophiques. Il faut préserver l'essence de la vérité chrétienne des intrusions extérieures. Donc, nous sommes obligés, quand Père Jean Bobok passe des heures admirables à parler de la bioéthique, c'est parce qu'on est obligé de le faire. On est obligé de le faire. Donc, il y a cette différence radicale du créé et de l'incréé sur laquelle Origène insiste dans le contre-sel. Mais ça veut dire quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que il n'y a pas de... Comment dire? La théologie, ce n'est pas une théologie de l'être. Alors, je vais prendre un thème un peu philosophique. Ce n'est pas une ontologie. Là, je crois qu'on arrive là, si vous voulez, à un point très important qui fait, je dirais, l'originalité de la pensée patristique de toujours et de maintenant et des temps qui viennent. La théologie patristique n'est pas une ontologie, n'est pas une ontothéologie, elle n'est pas une théologie de l'être divin. Ça, c'est très, très, très important. Alors que je crois qu'on peut dire tout de même que la théologie occidentale, depuis l'époque médiévale, s'est développée comme justement une théorie de l'être divin. Ça fait une différence vraiment assez importante. Vous allez me dire, oh, mais c'est pas grave, c'est complémentaire, c'est pareil. J'espère que vous n'allez pas me dire ça, parce que ça m'agacerait beaucoup d'entendre ça, mais bon, peut-être qu'il y a des gens qui le pensent. Je crois au contraire, si vous voulez, que la pensée patristique a préservé la démarche sémitique fondamentale dans la théologie. Alors, chez Saint Jean Chrysostome, il y a un vocabulaire magnifique. Je suis pas sûr d'arriver à le présenter de manière intéressante, parce que c'est, faudrait avoir un tableau, faudrait pouvoir écrire les mots en grec sur ce tableau pour que vous l'ayez sous les yeux. Mais il y a vraiment un vocabulaire d'une richesse. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et donc, je parle du vocabulaire concernant l'incompréhensibilité de l'être divin. Alors, d'abord, il faut dire qu'une bonne partie du vocabulaire de Saint Jean Chrysostome concernant ce sujet de l'incompréhensibilité divine vient de chez Saint Paul. Ça, c'est la source première. Je rappelais l'autre jour, c'était le jour de la fête de la translation des reliques de Saint Jean Chrysostome, je rappelais à des amis que Saint Jean Chrysostome lisait en entier toutes les épîtres de Saint Paul chaque semaine. Saint Jean Chrysostome était imprégné de la pensée paulinienne, qui est donc la pensée juive exprimée dans le langage grec. Parce que Saint Paul, c'est un de mes amis pasteurs qui m'a dit ça l'autre jour, Saint Paul est un rabbin dont on connaît les écrits avant les années 70. Et c'est très 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 rare, il n'y a pratiquement pas d'écrits équivalents. Donc par l'apôtre Paul, on connaît la pensée juive. Hein, c'est un rabbin qui parle quand Saint Paul parle, c'est vraiment très 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 important. Donc tout son vocabulaire, et justement, est un vocabulaire biblique, et qui est, par exemple, chez Saint Paul, qu'est-ce qu'on a? On a le mot invisible, Dieu est invisible, aoratos, pour ceux qui veulent du grec, en Romains 1, 20. Ensuite, indicible, aretos, 2 Corinthiens 12, 4. Inénarrable, c'est qu'on ne peut pas raconter, on ne peut pas faire la narration de ses exploits, anekdigitos, 2 Corinthiens 9. Insondable, c'est toujours Saint Paul, insondable, anexevrinietos, en Romains 11, 33. Impossible à découvrir, et qui est également un mot qui se trouve dans le prophète Job, au chapitre 5, mais c'est dans Saint Paul, aux Romains, chapitre 11, verset 33. Impossible à découvrir, et inaccessible. Aprositos. C'est un mot très intéressant parce que le mot aprositos est formé de trois composants, a, le alpha privatif, pros qui veut dire aller vers, et itos qui vient du verbe aller. C'est on ne peut pas aller vers, on ne peut pas l'approcher, inapprochable, donc inaccessible. C'est dans la première épître à Timothée au chapitre 6. Ça, ce sont les mots clés, si vous voulez, du vocabulaire de l'incognoscibilité divine qu'on trouve chez Saint Paul. Ensuite, il y a une autre série de mots qu'utilise Saint Jean Chrysostome largement et qui sont des mots qui viennent de chez Philon d'Alexandrie. Donc, on voit bien que les sources, c'est intéressant de voir que les sources de la pensée patristique, c'est Saint Paul, Philon d'Alexandrie, et après ça, Origène, Alors c'est ça le grand patrimoine, si vous voulez. Mais ce qui vient de Philon d'Alexandrie et de Saint Paul, c'est très important, parce que c'est du judaïsme en langue grecque. Parce que vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Donc chez Philon, on a une série de mots aussi que je vous donne, qui sont donc les attributs négatifs de Dieu. Là, on est déjà dans la théologie négative, c'est-à-dire ce que Dieu n'est pas. Eh bien, qu'est-ce qu'il n'est pas? Eh bien, il est inconcevable, par exemple. Apedinoitos. Inconcevable. Bon, alors, la traduction en français, d'ailleurs, le mot grec est vraiment très, très intéressant. J'ai beaucoup fait un peu de grec avec vous. Donc, apedinoitos, c'est pareil, il y a trois composés. Il y a le alpha privatif. Et peri, ça veut dire retour. Et noitos, c'est de noéo, qui veut dire penser de façon intuitive. Eh bien, on ne peut pas faire le tour de Dieu, si vous voulez. S'il est traduit par inconcevable, mais on ne peut pas en former le concept, c'est ça que ça veut dire. Ça revient à l'idée d'incompréhensibilité, puisque comprendre en français, c'est prendre avec, enserrer, comme on prend dans ses bras, embrasser. Et concevoir, c'est également aussi donc former un concept, c'est-à-dire enfermer dans un concept aussi une réalité. Philon, ça c'est Philon d'Alexandrie. Impossible à circonscrire. Apédigraptos. C'est un mot qui est très important parce qu'il se rapporte à l'iconographie et pose un problème à l'iconographe, comme le mot qui vient, les deux autres mots qui viennent après. Askimatistos, impossible à figurer, et athéatos, impossible à contempler. C'est intéressant, ces trois mots-là, donc impossible à circonscrire, impossible à figurer, et impossible à contempler, pose la véritable question de la théologie de l'icône. On n'a pas fini de réfléchir à ces questions-là. L'icône est-elle une circonscription de Dieu ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est pas vraiment le sujet de ce soir, si vous voulez, mais qu'est-ce qui se passe quand une icône est peinte, une icône du Christ est peinte? Est-ce que c'est le mystère de celui qui est impossible à circonscrire et qui, par condescendance, par kénose, se laisse circonscrire dans la ligne et dans la couleur? Ou est-ce que c'est une prétention humaine d'enfermer la divinité dans ces lignes? Quel est le phénomène qui permet à l'icône d'avoir lieu? Ce n'est pas un phénomène uniquement culturel, esthétique. Mais c'est quelque chose qui relève de la connaissance aussi. Or, en fait, on s'aperçoit, quand on lit les écrits des pères, que l'icône a toujours été considérée comme une réalité qui n'épuise pas le réel montré, n'épuise pas le mystère de la personne divine, et en aucun cas, l'icône ne prétend expliquer l'être divin. Il n'y a pas d'icône, c'est pour ça la raison pour laquelle il n'y a pas d'icône du Père Céleste. Il faut voir aussi pourquoi. Mais le Père Céleste n'est pas l'être divin. La substance divine appartient aux trois personnes divines. Mais dans la mesure où le Père divin est la source, il est la source de son propre être, et la source des deux autres personnes divines, en fait, il n'est jamais montré sous l'icône. Il y a des gueules, ne peut absolument pas saisir la source. La source est insaisissable. La source d'où découlent le Fils et l'Esprit. Donc il n'y a pas d'icône du Père pour cette raison-là. Il n'y a pas de figuration possible du Père, parce que le Père, ce n'est pas incarné. C'est très bien que la théologie de l'icône dit qu'on figure le Fils, parce que le Fils est incarné. Donc il s'est rendu figurable, si je peux dire. Il s'est rendu contemplable ou représentable en s'incarnant. Mais l'Esprit ne s'est pas incarné, donc il n'y a pas d'icône du Saint-Esprit. Et le Père ne s'est pas incarné, donc il n'y a pas d'icône du Père. Oui. Il faut qu'il y ait une condescendance divine pour qu'il y ait une possibilité de... non pas d'enfermer la divinité, mais de l'entourer, de l'embrasser, de l'approcher d'une manière qui reste encore tout à fait, modeste, hein, modeste, qui n'épuise pas, qui n'est jamais exhaustive. Ça c'est l'expression de Philon. Et alors, il y a une expression là qui est probablement l'expression la plus importante, en tout cas chez Saint-Jean Chrysostome, qui l'emploie tout le temps, et qui est en grec « akataliptos » et qu'on traduit par « incompréhensible ». Et c'est employé par Philon d'Alexandrie, mais je vous avais dit tout à l'heure qu'on trouve cette expression-là dans des textes d'Aristote. Et alors ça, c'est un mot très important. Ceux qui ont fait un peu de grec savent qu'en grec, le verbe katalambano, katalavi, comme ils ont dit en grec moderne, ça veut dire comprendre. Par exemple, en grec, si vous allez en Grèce, à Athènes, vous dites à quelqu'un quelque chose, tu dis, est-ce que tu as compris? Il dit, katalavis. Tu as compris. Bon, ça, c'est le verbe basique pour dire comprendre. Katalambano en grec ancien. Donc, katalipsis, ou akatalipsis, c'est l'incompréhensibilité. Et ce mot apparaît, il est très intéressant, il apparaît dans le prologue de l'évangile selon saint Jean. On dit, on traduit, les ténèbres ne l'ont pas comprise, la lumière est venue dans le monde. Bon, à mon avis, je pense qu'il faudrait peut-être rapprocher ce mot-là, qui est le même, justement, de la notion d'incompréhensibilité. Hein, la lumière est venue dans le monde, mais c'est une lumière incompréhensible. Et à plus forte raison, incompréhensible à cause du péché, bien sûr, et de la corruption des hommes. Mais en elle-même, cette lumière est une lumière incompréhensible. Elle peut illuminer, elle peut éclairer, elle peut réchauffer, mais elle n'est pas pour autant comprise ou compréhensible. Donc j'étais dans le vocabulaire. Ensuite, il y a chez Clément d'Alexandrie une expression qui est reprise un peu par saint Chrysostome, qui est l'expression inexprimable, qui est une expression très importante. Dieu, au fond, est inexprimable. Alors, ça veut dire que Dieu peut s'exprimer, lui. Il peut parler, mais nous ne pouvons pas l'exprimer. Ça, c'est assez important. C'est que la théologie, ça revient à ce que je vous disais au début, la théologie, ce n'est pas un discours sur Dieu, c'est le discours de Dieu sur lui-même et que nous recevons. Et puis, bon, on retrouverait d'autres expressions qui sont intéressantes. Par exemple, le verbe qui veut dire surpasser. On dit, voilà, il faut, même en se surpassant, on n'arrive pas jusqu'à Dieu, ou bien Dieu surpasse indéfiniment ou infiniment toute connaissance. C'est un mot qui vous pourrait employer. Bon, il y a d'autres petits mots moins importants. Les mots que je vous donnais là sont les mots les plus importants. Et donc, c'est pour ça que saint Jean Chrysostome, sur la base de ce vocabulaire, reprend constamment ce thème de l'incompréhensibilité. Je vais vous en lire quelques passages, toujours dans les homélies sur l'incompréhensibilité de Dieu. Il dit par exemple, l'essence de Dieu est incompréhensible pour toute créature. Ça, on l'a déjà dit, saint Basile, c'est dans saint Basile, c'est dans Philon d'Alexandrie. Donc, vous savez, c'est un leitmotiv, c'est vraiment, je dirais, un leitmotiv judéo-grec. Parce que là, en fait, il y a la rencontre, si vous voulez, de la pensée juive et du vocabulaire grec. Hein. Et saint Jean Chrysostome prend ses exemples dans l'Écriture, toujours le psaume 138. Vous y référerez, si on n'a pas le temps de lire présentement, le psaume 138 est un psaume clé pour le thème théologique de l'incompréhensibilité de Dieu. Et il dit que le prophète David, en présence de l'océan infini et béant de la sagesse de Dieu, a été pris de vertige. Ça, c'est dans le premier livre de l'incompréhensibilité de Dieu. L'essence de Dieu est incompréhensible pour toute créature, elle est inaccessible aux anges. Alors Chrysostome dit, ce n'est pas seulement pour les chérubins et les séraphins, mais également pour les principautés, les puissances et pour toute espèce de vertu créée par Dieu. Donc, quel que soit le degré de la hiérarchie angélique, vous savez qu'il y a une hiérarchie à 9 degrés, généralement représentée par, plus tard, représentée par les textes aréopagitiques, mais quels que soient les degrés, il n'y a pas de connaissance. Mais, dit saint Chrysostome, plus les êtres s'approchent, vous allez voir, c'est très beau ça, plus les êtres s'approchent de Dieu, plus ils comprennent qu'il est incompréhensible. Alors ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, pour l'homme ordinaire, dont je suis peut-être, au fond, la question, pas à la limite, on peut, je sais pas, Dieu, ça se comprend, il y a toujours eu des religions, il y a toujours eu des gens qui ont cru en Dieu, ça fait partie de la vie, enfin, on ne se pose pas tellement la question. Et là, c'est parce qu'on est loin de Dieu, mais plus on est proche, le caractère incompréhensible de Dieu nous apparaît à nous, les hommes, moins nettement qu'à ses illustres vertus, c'est-à-dire les anges, les archanges, etc., dans toute la mesure où elles surpassent la nature humaine en pureté, en sagesse la perspicacité. C'est-à-dire que les, ça veut dire que le monde angélique, et donc la mère de Dieu qui est au-dessus d'eux, sont beaucoup plus impressionnés par l'incompréhensibilité de Dieu que nous ne le sommes. Et ça veut dire que leur louange, ça, c'est, ça débouche là-dessus, il y a quand même la connaissance comme louange, comme glorification, comme doxologie. C'est pour ça que la doxologie des anges et de la mère de Dieu au-dessus d'eux est une doxologie infiniment, incomparablement plus élevée que celle que nous pouvons avoir. Parce que la doxologie est justement inspirée par l'intuition, la perception, ou l'évidence de l'incompréhensibilité de Dieu. Plus nous sommes pénétrés par cette incompréhensibilité divine, plus la louange jaillit de notre cœur. Alors pour ceux pour qui Dieu est compréhensible, ben ils n'ont rien d'extraordinaire à dire. Parce que vous voulez, tout s'explique, bof, on tourne la page. Et c'est le problème justement des adversaires que les orthodoxes avaient devant eux, les fameux anoméens ou eunomiens, c'est que ces gens-là, ils avaient tout expliqué. Donc, ça s'arrêtait, c'est un flop, vous voyez. Et si on a tout expliqué, si on a tout dit de Dieu, si on a tout dit de l'homme, si on sait tout de tout, c'est terrible. Il y avait aussi dans une histoire, dans un roman, quelqu'un qui quittait sa compagne, ou une fille qui quittait son mari, dit « Oui, je n'ai plus rien à apprendre, je sais tout de lui ou je sais tout d'elle, ça ne m'intéresse plus, donc je change. » Ça, c'est effrayant, ça. L'idée qu'il peut arriver dans la vie, qu'on croit tout savoir de quelqu'un et que du coup, on s'ennuie. Mais si nous savions tout de Dieu, nous nous ennuierions. Et il y a ceux qui s'ennuient à l'Église, ce sont ceux qui sont très loin de Dieu et qui sont incapables de s'émerveiller de l'aide de son incompréhensibilité. Autrement, ils auraient les yeux comme des soucoupes, tellement ils seraient émerveillés. Et je crois que la liturgie pourrait être... Je ne sais pas de quoi ça dépend de la catéchèse, je ne suis pas sûr, mais... Donc la qualité de la liturgie, la qualité de la prière liturgique, donc, dépend essentiellement de la perception que nous avons de l'incompréhensibilité de Dieu. Vous voyez ? C'est très intéressant. Voilà, et donc voilà, ce que dit notre bon Chrysostome, que j'aime beaucoup, mais qui sont antisémites, je l'aime beaucoup. Alors, oui, alors ce qui est intéressant, il y a une autre idée qui est chez Saint Jean Chrysostome, mais qui est également chez Saint Basile, c'est que Dieu n'est pas seulement incompréhensible en lui-même, comme je viens de le dire, mais il est également incompréhensible dans son immanence au monde. C'est-à-dire qu'il est également incompréhensible dans ses voies, dans son comportement. Voici la citation de Saint Chrysostome, t'expliques-tu comment Dieu est présent partout ? Et nous disons ça, toi qui es partout présent et qui remplis tout. Bah oui, nous le disons. Bah, pouvons-nous l'expliquer ? Eh bien non. N'est-ce pas donc le comble de l'insanité que des hommes si inférieurs en grâce à ce prophète David prétendent scruter l'essence même de Dieu ? Donc oui, il tire argument du fait que nous ne pouvons pas expliquer. Nous ne pouvons que chanter la présence de Dieu dans son monde, dans sa création. Nous ne pouvons pas l'expliquer. Mais il dit, plus forte raison, nous ne pouvons pas expliquer ce qu'il est. Si nous n'arrivons pas à expliquer comment. Et il cite l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, qui est un très beau texte. « Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables. » Pas le mot insondable, dont je parlais tout à l'heure. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 11. Et comment Saint Jean Chrysostome, il dit, Saint Paul ne dit pas incompréhensible, mais il dit insondable. Les Grecs adorent les mots, la précision des mots. S'il est impossible de le sonder, il est bien davantage de le comprendre. Sonder, ça veut dire comme une sonde qui pénètre à l'intérieur d'une réalité. Et comprendre, c'est au contraire embrasser de l'extérieur. Ensuite, il commente encore ça. Si, que dis-tu ? Ses jugements sont insondables. Ses voies impossibles à découvrir, sa paix dépasse toute intelligence, ses dons sont inexprimables, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment n'est pas monté au cœur de l'homme, sa grandeur n'a pas de bornes, son intelligence est sans mesure, ainsi tout en lui est incompréhensible, et lui seul serait compréhensible. Ben non, la mesure de Dieu est incompréhensible dans son comportement, il a plus forte raison incompréhensible dans son être, vous voyez. Et c'est vrai de toute essence. Alors ça, c'est un petit peu long pour ce soir, mais Saint Basile comme Saint Jean Chrysostome disent qu'en fait, c'est vrai de toute essence créée. Par exemple, plus loin, je le dis, Saint Jean Chrysostome dit que l'être humain ne peut pas connaître l'essence de l'homme. Il ne peut pas connaître l'essence de l'âme humaine, par exemple. Et qu'il y a une impossibilité, une incompréhensibilité de toute essence, que ce soit une essence divine parce qu'elle est incréée, mais même des essences créées. C'est-à-dire, l'accès à l'être des choses n'est pas au bout de notre. Alors, c'est très grave comme question, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de science. Donc, souvent, ça peut se discuter. Mais c'est du point de vue anthropologique très important. Ça veut dire que l'être humain. Est inconnaissable comme Dieu est inconnaissable. L'être humain est incompréhensible dans son essence comme Dieu est incompréhensible dans son essence. Et ça, c'est très important du point de vue de l'anthropologie. Donc, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de science humaine. Ou bien que ce qu'on appelle les sciences humaines, ce sont des sciences, des phénomènes humains, des sciences du comportement humain, mais que ce n'est pas des sciences de l'homme. Les sciences humaines ne nous disent pas qu'est-ce que l'homme. Et même la Bible ne nous le dit pas. La Bible nous dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu, mais c'est bon. Elle décrit l'homme, mais elle ne dit pas ce qu'il est. Donc il y a quelque chose qui est profondément mystérieux en Dieu et dans l'être humain, en tout cas, sans parler du mystère même du cosmos, qui serait à envisager aussi. J'ai encore un peu de temps ou pas? Non. Bon, donc je vais juste à la fin, parce que vous allez voir, c'est... Donc, les voies des pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Alors, ce qui est intéressant, je crois que c'est pour conclure, c'est que finalement, toute cette question de l'incompréhensibilité, ça débouche sur une certaine définition de la connaissance que les Grecs, Saint Jean Chrysostome, Saint Grégoire de Nice, appellent agnosia, c'est-à-dire ignorance, docte ignorance, c'est-à-dire que la seule vraie connaissance de Dieu, du Dieu inconnaissable, c'est la reconnaissance de son incompréhensibilité. Tout ce que je peux connaître de Dieu, c'est qu'il est inconnaissable. Tout ce que je peux comprendre de Dieu, c'est son incompréhensibilité. Mais c'est ma joie, c'est ma louange. Mais ce n'est pas de l'agnosticisme. Ça, je vais arriver à ma conclusion, parce que je tiens beaucoup. Ce n'est pas de l'agnosticisme. C'est une ignorance de l'essence divine, mais ce n'est pas une ignorance de son existence. Ce serait un péché. Vous savez que David dit dans son psaume... le psaume 13:1, l'insensé, le fou dit il n'y a pas de Dieu. En 52, l'insensé Dieu dit Dieu n'existe pas, comme dans la revue scientifique. Et saint Paul dit, il ne dit pas qu'il ne sait pas, mais il dit qu'il ne comprend pas. C'est pas la même chose. Donc on n'est pas dans un agnosticisme, genre s'il y a un Dieu ou pas de Dieu, j'en sais rien, c'est ça, c'est de l'agnosticisme, c'est pas ben ça, on dit, je sais qu'il y a un Dieu, je sais qu'il y a un Dieu qui existe, mais je ne le comprends pas, je ne peux pas vous expliquer. Et c'est pour ça que quand Saint Jean dit, c'est selon Saint Jean Chrysostome, hein, quand Saint Jean, l'évangéliste, dit que personne n'a jamais vu Dieu, il veut parler d'une connaissance exhaustive et d'une intelligence complète. Donc c'est cette connaissance exhaustive qui est impossible. Et alors il y a, en fait, la voie de la connaissance entre... une gnose indiscrète et une agnia complète, c'est-à-dire une ignorance stérile, il y a une autre voie, c'est que nous ne savons pas ce qu'est Dieu, mais nous savons qu'il est. Nous ne savons pas ce qu'est la sagesse de Dieu, mais nous savons qu'il est sage. Et Saint Jean Chrysostome dit que la connaissance partielle dont parle Saint Paul, c'est que, citation, « tout en sachant que Dieu existe, il ignore quel il est dans son essence. Tout en sachant qu'il est sage, il ignore quelle est l'étendue de cette sagesse. Tout en n'ignorant pas qu'il est grand, qu'il ne connaît ni le comment, ni la nature de cette grandeur. Tout en n'ignorant pas qu'il prévoit, soutient et gouverne tout dans le moindre détail, il ignore la manière dont il le fait. D'où la conclusion de Saint-Jean Chrysostome, il suffit de la piété de savoir que Dieu est. » Non, pas, ça nous suffit largement. Et il y a une. Si je vous lis la suite, parce que c'est très important, il dit aussi, lorsque Dieu parle, il ne faut pas mettre en jeu des raisonnements, ni prétexter l'enchaînement des causes ou la loi inéluctable de la nature, ni rien de tel, puisque la force de la parole divine est supérieure à tout cela. Et il donne l'exemple de Zacharie qui a été puni, il est devenu muet, hein, pour avoir douté d'une naissance humaine. Et donc, parce qu'on... Et il y a au contraire l'exemple type, qui, c'est là-dessus que je termine, et qui est l'exemple type, au fond, de la connaissance théologique orientale, au fond, c'est-à-dire biblique, juive, sémitique et patristique, c'est Abraham. Abraham qui est le modèle de celui qui croit à la parole de Dieu sans chercher à la scruter. C'est dans le livre 2, et Saint Grégoire de Nice, je vais vite pour terminer... écrit dans un livre qui s'appelle également Contre-nom, parce que le contre-nom, il y a un contre-nom de Saint-Basile, il y a un contre-nom de Saint-Grégoire de Nice, juste pour créer un peu de confusion. Saint-Grégoire de Nice dit la chose suivante, qui est très belle: il n'y a pas d'autre moyen d'approcher de Dieu que la médiation de la foi qui unit l'esprit qui cherche à la nature incompréhensible. C'est pourquoi, ayant abandonné la curiosité de la gnose, Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Donc c'est la foi qui est le chemin de la connaissance. C'est mieux, c'est pas à peine de parler pendant une heure et demie pour arriver à nous dire ça. Je vous remercie. Voilà, on vous remercie beaucoup de votre attention, de votre présence, de votre coopération. Et donc les fois, je ne sais pas si c'est encore enregistré, mais dans les autres séances, donc on va avancer là-dedans et aborder la question de l'apophatisme, la question de ce qu'on appelle l'apophatisme théologique, qui est lié à ça. Ouais. Je crois que ça ne venait pas trop, ça. J'ai l'impression que c'est des banalités, absolument, tout le monde sait ça. Hein. Voilà, merci Père.